Chapitre 6. La loi essentielle du service d'amour. Eh bien, cette loi, c'est une loi de dépendance à l'égard de Dieu et de ses volontés. L'homme, là, de sa nature, est essentiellement dépendant. Il est tel par le fait de sa création. Un être créé dépend de façon absolue et radicale de son Créateur. Il n'a aucun droit devant Dieu, c'est Dieu qui les a tous. Il n'a pas choisi l'heure ni le lieu de sa venue en soi. Il est impuissant à prolonger d'une seule minute la durée de sa vie mortelle. Il ne fixera pas davantage le moment précis de sa mort, et dans l'intervalle, sa personne et son destin subissent l'influence des événements qu'il est incapable de diriger à son gré. Les faits se succèdent sans qu'il puisse les prévoir avant qu'ils se produisent. De là l'incertitude de ses vues, la faiblesse de ses ressources, l'inhabilité de ses conjectures. L'homme n'est pas son propre maître, non plus que celui des événements. Il est dans sa nature de relever d'un être plus puissant que lui et d'en dépendre pour les moindres détails de sa vie et de sa conservation. Dans l'ordre surnaturel, son impuissance n'est pas moins radicale. La grâce sanctifiante lui a été accordée sans aucun mérite, par une gratuite condescendance de Dieu. Il ne peut la conserver que moyennant un secours divin, non moins gratuit, qu'on nomme la grâce actuelle. Que ce secours lui manque, son effort personnel n'aboutit à rien dans la pratique de la vertu. Son impuissance est telle, au dire du grand apôtre, qu'il ne peut prononcer le nom saint de Jésus d'une façon méritoire sans être assisté de l'Esprit-Saint. 1 Corinthiens 12, 3. L'homme en face de Dieu, c'est la dépendance absolue en présence de la souveraineté absolue. Le saint, arrivé au fait de la vie mystique, est arrivé par là même au plus haut point de dépendance à l'égard de Dieu, puisqu'il ne se meut librement que sous l'impulsion du Saint-Esprit, ayant renoncé à se conduire d'après ses propres vues et sa propre volonté. Il pratique le saint abandon, qui est, au dire de saint Bernard, la dernière perfection de l'amour. Adam et Ève, c'est pour avoir violé une volonté de Dieu, et donc agi en être indépendant, qu'ils se perdirent, et avec eux toute la race humaine. En face de cette loi de dépendance, l'homme doué de liberté peut donc résister ou se soumettre. C'est précisément le choix de l'une ou l'autre attitude qui distingue les bons des méchants. Les pécheurs d'habitude sont les vrais malheureux de ce monde. Enfin, il se trouve des âmes généreuses qui non seulement affirment leur dépendance à l'égard de Dieu, mais se conduisent d'après l'esprit de ses dispositions que cet état suppose. Elles adhèrent pleinement à ses droits souverains et lui donnent toute liberté d'exercer ses droits. Dépendantes par le fait de leur création, elles le sont plus encore par un fait de détermination. Leur vie entière se résout dans un oui plaigné à toutes les volontés divines qu'elles embrassent sans choix comme sans réserve. Ces âmes sont à Dieu un hommage vivant. D'une souplesse parfaite entre ses mains, elles lui procurent toute la gloire qu'il en attend et elles en reçoivent par voie de retour, tout le bonheur dont on peut jouir ici-bas en attendant le ciel. Heureuses ces âmes de bonne volonté, c'est-à-dire dont la volonté est soumise à celle de Dieu. Elles ont compris l'amour, elles croient à l'amour. On rencontre des âmes faisant profession de piété, apparemment désireuses de progrès spirituel et qui ne font pas plus état de la volonté divine que d'un nuage passant au-dessus de leur tête. Alphonse de Ligorie a dit « Elles veulent se sanctifier, mais à leur manière. Elles veulent aimer Jésus-Christ, mais en suivant leur inclination, c'est-à-dire sans renoncer à leur amusement, à la vanité de leurs habits, aux délices de table, etc. Elles aiment Dieu, mais si elles ne viennent pas à bout d'obtenir tel emploi, elles vivent dans l'inquiétude. Si on touche à leur réputation, elles s'irritent. Si elles ne guérissent point de telle maladie, elles perdent la patience. Elles n'ont pas la liberté d'esprit, mais sont esclaves de l'amour-propre. C'est pourquoi elles ont peu de mérite, car le joug de Jésus-Christ leur devient pesant. Rien ne monte de ces âmes vers Dieu comme il faudrait. Rien ne descend du ciel vers ces âmes comme Dieu le voudrait. Il y a quelque chose qui encombre la voie. On n'a pas compris, ou voulu comprendre, que le premier don à offrir au Seigneur, c'est le don de soi. L'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ met les paroles suivantes sur les lèvres de Jésus, s'adressant à son disciple. « Que demandais-je de vous, sinon que vous vous abandonniez à moi sans réserve? Tout ce que vous me donnez hors de vous ne m'est rien, parce que c'est vous que je veux, et non pas vos dons. » Supprimer la volonté propre et l'amour propre, disait le Seigneur à Sainte Catherine de Sienne, vous supprimerez cet enfer que la perpétuelle agitation d'esprit et les tempêtes des inquiétudes font souffrir à beaucoup en cette vie. En matière d'amour, il est très important de ne pas se méprendre et de savoir discerner l'or pur de l'alliage ou du cuivre. On a bien de la peine à faire comprendre aux débutants que l'amour de Dieu est une affaire de volonté et non de sensibilité. Ils veulent sentir quelque chose pour bien s'assurer de leur amour. Et Bossuet a écrit « C'est le vrai et parfait exercice de l'amour, de conformer sa volonté à celle de Dieu. » Alors les sentiments ne sont pas toujours présents. Il ne faut pas s'en alarmer ni baser notre amour sur ces sentiments-là. Les saints, s'ils ont fait des miracles, accompli de grandes choses, multiplié les mortifications à un degré qui nous étonne, ce n'était que pour exécuter un dessein particulier de Dieu sur leur âme. Ils ont simplement correspondu à la grâce qui les sollicitait. Les saints ne choisissent pas leur voie. Ils suivent celle que leur trace la Providence. Voulez-vous savoir ce que vaut votre amour? Mettez-le en face d'une volonté divine qui contrarie sensiblement la vôtre. Voilà le test infaillible. Il nous est donné par notre Seigneur lui-même. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. La plus grande certitude que nous puissions avoir en ce monde d'être dans la grâce de Dieu, dit saint François de Sales, ne consiste pas dans un amour sensible envers lui, mais dans une entière et irrévocable résignation à sa volonté. Les beaux sentiments ne valent rien s'ils ne sont accompagnés des œuvres. Certaines personnes ont parfois des ardeurs qui se déclarent et s'enflamment au temps de la prière. Elles y versent des larmes de consolation. Mais au sortir de là, il faut supporter le prochain, pardonner, s'humilier, obéir à une autorité légitime. En un mot, il faut accomplir la sainte volonté de Dieu. Dans la pratique du devoir d'État monotone et pénible, là, la scène change. Les bonnes résolutions se sont noyées dans des flots de douces larmes. L'amour exige autre chose que des vertus de prie-Dieu. 1 Jean 5,3 dit « Non, ils ne sont pas pénibles, les commandements de Dieu, à celui qui aime. Car l'amour ne sent pas la peine, dit saint Augustin, ou bien il aime cette peine quand il la ressent. » Sainte Thérèse d'Avila a écrit « La souveraine perfection ne consiste pas dans les consolations intérieures, ni dans les sublimes ravissements, ni dans les visions, ni dans l'esprit de prophétie. Elle consiste à rendre sa volonté si conforme à celle de Dieu que dès que nous comprenons qu'une chose est voulue de lui, nous nous y attachons de tout notre vouloir à recevoir enfin avec une égale allégresse ce qui est doux et ce qui est amer. Le Seigneur, instruisant sainte Catherine de Sienne, lui dit « Personne, de quelque état qu'il soit, religieux ou séculier, ne peut atteindre la gloire éternelle, même en me rendant tous les honneurs extérieurs, s'il ne fait ma volonté. Toute la sainteté consiste à aimer Dieu, dit saint Alphonse de Ligorie, et tout l'amour de Dieu consiste à faire sa sainte volonté. Dieu ne peut se fier pleinement qu'aux humbles. Seuls les humbles ne sont pas voleurs. Ils ne lui ravissent pas sa gloire. Les humbles sont les gens honnêtes du monde surnaturel. Dieu peut leur faire gérer des millions, ces millions à lui, il est sûr de leur probité. Petites âmes, et je crois que vous le comprenez, cette vertu de parfaite conformité au bon plaisir divin suffit à tout. Elle est l'adoration en esprit et en vérité, telle que la cherche et la demande le Père céleste. Elle est la loi essentielle de l'amour. Sainte Thérèse d'Avila a écrit bien souvent « La chose la plus raisonnable devient folie à nos yeux parce que nous n'avons pas envie de la faire. » Oh, laissons-nous couler à fond dans ce bienheureux abîme de la volonté de Dieu, devant un sacrifice, une contrariété, une injustice des hommes, un appel de l'obéissance. Figurons-nous entendre Jésus lui-même qui nous dit « M'aimes-tu ? » Vous m'invitez à tendre à ce sommet, mais je ne suis pas sans comprendre que l'ascension à fournir suppose des détachements, réclame des amputations douloureuses et des sacrifices d'amour propre. Il s'agit de bien autre chose que de prononcer par routine et sans conviction des formules de prière ou d'offrande. C'est donc dans un monde nouveau que je vais entrer, un monde dont vous serez désormais Seigneur, le centre unique. Auparavant, je pensais à moi, je rapportais tout à moi. À l'avenir, je devrais penser à vous, chercher à vous contenter et à vous plaire avant de me contenter moi-même et de suivre les impulsions de ma mauvaise nature. C'est une entreprise formidable. Mon doux Jésus, cette tâche me fait peur. Je crains ne pouvoir y tenir longtemps, mais je compte sur vous. La persévérance me deviendra facile par le miracle de l'amour. Votre sainte volonté, ô mon Père du ciel, va devenir la grande idée dominante de ma vie. Elle sera ma passion, mon culte, mon bonheur, ma sécurité et ma paix. Je sais donc maintenant d'où il faut partir pour aller à vous. Amen.